Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 13 juin 2022. Il est 20h et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation.
En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse, la tête dans le paquet, et
reprise
d'aide,
gol, gol
pour la Belgique.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Pouce, vous êtes un salaud.
Goal, 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 goal,
bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir. J'espère que vous avez passé un bon week-end, qu'il a été ensoleillé, que vous avez pu en profiter pour vous reposer, pour regarder du sport aussi. Enfin, que vous avez passé un bon week-end. Ce soir, on va évoluer en effectif réduit, mais vous savez que ce qu'on dit, hein, la qualité vaut mieux que la quantité. Alors ce soir avec moi, une grande voix de cette radio, on peut même dire une voix... incontournable pour un supporter inconditionnel des Blau & Zwart, vous l'aurez reconnu, Didier Cohn, monsieur Didier Cohn. Salut Didier, comment vas-tu depuis ce matin?
Ça va plutôt bien mon cher Sam, content de vous retrouver, puis ça faisait aussi quelques semaines que je n'avais pas eu le soir. Et puis je suis ravi d'y être.
Eh ben super, comme ça on va pouvoir... discuter un petit peu de toute cette actualité footballistique, en commençant bien sûr au programme ce soir par la Ligue des Nations. On va évoquer les résultats, les matchs à venir, les enjeux. On évoquera aussi, en pleine actualité ce soir et demain, on a les deux derniers matchs de barrage au Mondial Qatari.
Ça, c'est ce soir.
Il y en a un ce soir, un demain.
D'accord.
Australie-Pérou ce soir et Costa Rica-Nouvelle-Zélande demain.
Ensuite... Ce serait cool d'avoir des Néo-Zélandais en Coupe du Monde.
Ouais, c'est vrai que habituellement c'est le ballon ovale qui les intéresse et dans lequel ils performent. Mais
je crois qu'ils font du haka.
Mais j'allais te le dire parce que je sais qu'en basket ils le font.
D'accord.
Ils font en basket, donc il y a peut-être moyen de.
Moi, je serais supporter des Néo-Zélandais juste pour avoir la réponse à cette question.
Eh ben, écoute, ce sera demain en tout cas. Si tu veux les suivre, c'est demain soir. Les matchs se jouent au Qatar, mais. On ne va pas en dire beaucoup plus, sinon on n'aura pas grand-chose à dire pendant l'émission.
C'est
dessus,
pas faux. Puisque,
voilà. Ensuite, on évoquera la préparation de la prochaine saison pour les clubs et notamment les changements d'entraîneurs qui sont intervenus, qui ont été officialisés dans pas mal de clubs de Jupiler Pro League. Donc on va revenir là-dessus et on terminera. Je vous parlerai de deux exploits qui ont été réalisés ce week-end, l'un en golf, l'autre en tennis. Et enfin, on terminera en parlant sport mécanique et plus particulièrement Formule 1 avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan hier et la semaine prochaine, le Grand Prix du Canada sur le fameux circuit Gilles-Villeneuve. On en parlera en fin d'émission.
Si on a le temps.
Si on a le temps. Et ben voilà, c'est le coup d'envoi. C'est le coup d'envoi et je vous propose qu'on commence directement par la Ligue des Nations. Je rappelle rapidement... Le principe de la compétition, bon, a priori, les gens qui nous suivent savent un peu, mais je me suis quand même laissé entendre, je me suis laissé dire par des auditeurs qui sont pourtant connaisseurs de football, qui c'est un petit rappel de la règle.
C'est
pas,
un peu nébuleux.
C'est quand même, ouais, c'est très nébuleux. Il faut savoir que c'est une compétition qui n'est pas, c'est pas une compétition qualificative par rapport aux autres compétitions. Ça se présente de la même manière, puisque chaque équipe est dans un groupe. Mais l'objectif n'est pas d'atteindre une phase finale, sauf quand vous êtes en Ligue A et encore. Mais c'est de finir premier pour monter dans la division supérieure et surtout éviter d'être dernier pour ne pas descendre dans la division inférieure. Il y a donc quatre divisions ABCD. Chaque division est composée de quatre groupes, de quatre équipes. Et donc, vous l'avez compris, ça se joue en match aller-retour. Si au terme de ces matchs, des six matchs normalement qui sont à jouer, puisqu'il y a quatre équipes, donc chacun a trois adversaires qu'il rencontre deux fois. Si au terme de ces matchs, vous êtes premier de votre groupe, vous montez directement dans la Ligue supérieure. Si vous êtes derrière quatrième, vous descendez. Voilà.
Et en Ligue A ?
Et en Ligue A, il y a la petite...
Le Final Four.
Le Final Four, puisqu'on ne peut pas monter plus haut que la Ligue A.
J'ai une question, justement. On me l'a posé cet après-midi, j'ignorais, et je n'ai pas pris le temps d'aller voir encore sur Wikipédia ou enfin de me renseigner comme il faut. C'est les deux premiers de chaque groupe qui sont qualifiés ou bien
non, c'est le premier de chaque groupe...
Il y a quatre groupes, alors,
il y a quatre groupes en Ligue A. Dans toutes les ligues, il y a quatre groupes de quatre joueurs, et c'est uniquement les premiers qui sont qualifiés.
Donc deuxième et troisième, ils restent en Ligue A pour l'année
suivante. Exactement, ils restent dans la même ligue, il n'y a que 1 et 4 qui bougent. On commence donc par la Ligue A et par le groupe de la Belgique.
Sans blague.
On va pas se priver. Dans le groupe de la Belgique, je vous rappelle les adversaires, les voisins
hollandais.
La Pologne et l'habituel adversaire, le Danemark de la France, c'est-à-dire le pays de Galles pour la Belgique. Résultat, donc on a déjà joué trois matchs depuis le début de cette fenêtre internationale.
Le
quatrième aura lieu demain et on peut dire que les résultats sont plutôt contrastés. Ça a commencé très très mal par une défaite historique 1-4 contre les Néerlandais. Je crois que ça faisait depuis 78 qu'il n'y avait pas eu une défaite comme ça à domicile.
Et puis je pense que la Belgique n'avait plus perdu un match perdu depuis aussi 1000 jours, je crois, un truc comme ça, depuis 2018, je crois, ou 2016.
Ouais, il y a eu un arrêt.
Il faut toujours une première fois, ou en tout cas, il faut toujours une exception pour confirmer la règle.
C'est ça. Ensuite, la Belgique, lors de son deuxième match, a repris sa marche en avant, en écrasant la Pologne 6-1.
En ayant été menée 0-1.
Voilà.
On y reviendra, j'imagine.
Et le nul, lors du dernier match en date, c'était samedi soir, 1-1 au Pays de Galles, ce qui fait qu'au classement, pour le moment, les Pays-Bas sont en tête avec 7 points, la Belgique deuxième avec 4, la Pologne 4 points également, et le Pays de Galles 1 point. Qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on peut dire du parcours actuel des Belges ? Je voudrais qu'on commence... Ça définit sans doute pas l'état d'esprit de toute l'équipe, mais ça doit quand même avoir un petit marqueur. Ça doit être un petit marqueur pour tout le monde. On va commencer par les déclarations de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, on l'a interrogé et il a dit, bon, c'est la phrase qui a été ressortie, la Ligue des Nations n'a aucune importance. Effectivement, on en parlait. C'est sans doute à nuancer un petit peu, c'est-à-dire que...
Il ne faut pas le sortir de son contexte en même
temps.
Je pense que si Kevin De Bruyne était dans le ventre mou du classement en Angleterre, qui n'aurait pas été en demi-finale de Champions League, etc., il aurait tenu d'autres propos. Ceci dit, ce n'est pas le seul. Il a été celui qui a le plus mouillé le maillot, je vais dire, dans les déclarations aussi. Parce que sur le terrain, on a beau dire qu'il a traîné son ennui, mais moi je l'ai vu aller défense, aller chercher des balles que certains défenseurs n'auraient pas été chercher eux-mêmes. Mais Courtois aussi avait dit qu'il ne comprenait pas trop le principe de la Nation League. J'ai l'impression aussi que le fait que la Coupe du Monde cette année est en hiver fait que cette Nation League cette année, peut-être qu'ils auraient dû soit la déplacer, soit l'annuler pour un an, je ne sais pas.
Ouais.
C'est vrai que ça fait une saison interminable.
Ça fait
pour
une saison, ouais, et puis les confinements, le premier confinement était déjà il y a un peu plus de 2 ans, mais pour les footballeurs, la plupart... ça a décalé beaucoup leur calendrier, puisqu'il y a la plupart des championnats, la Belgique n'était pas dans ce cas, la France non plus, mais la plupart des championnats ont repris.
Bien sûr, sans public, mais
sans
d'un
public,
autre côté.
Mais ce qui fait que ça a allongé la saison 2019-2020 et ils ont démarré.
Il n'y a pas que le confinement, je pense, tu sais. J'ai l'impression, Sam, que. Parce que ça, c'est. Le confinement a été problématique pour les joueurs qui.
Pour le calendrier. Non, ce que je veux dire, c'est pour le calendrier. C'est-à-dire pour le calendrier, ça a décalé un petit peu, ce qui fait qu'ils ont eu une période de repos plus courte qu'à l'accoutumée.
Jours, je pense.
Voilà, ils ont enchaîné avec une autre saison. Mm-hmm. Et donc là, ça fait beaucoup de matchs joués, effectivement, pour les joueurs comme Kevin De Bruyne et tous ceux qui performent.
C'est beaucoup de matchs joués. C'est beaucoup de matchs joués aussi pour des organismes déjà sains, on va dire.
Ouais.
Il y a quand même énormément de joueurs dans certains clubs qui ont tous été plus ou moins testés positifs ou carrément malades. Et je pense que même testés positifs en étant asymptomatiques, et pour l'avoir vécu, je ne suis pas un grand sportif, évidemment, ça, tu le sais, et tout le monde le sait, sais, qui me connaît en tout cas, ça laisse des séquelles. Tu es d'une fatigue extrême, une énergie zéro, et je pense que les joueurs de football sont pas au-dessus de ça.
Non, donc,
y en a pas mal qui ont été atteints par le Covid, qui en plus de l'absence et donc de manque de rythme de match, on les a sentis après pédaler dans la semoule pour revenir au niveau. Et ben voilà, ça ne reste que des êtres humains. Et j'ai parfois l'impression, moi, et je suis assez d'accord avec les analystes qui le disent, que ben oui, il faut essayer de reprendre à l'idée que ce sont des êtres humains, on en fait des robots. Alors sous prétexte qu'ils gagnent super bien leur vie, et c'est vrai, et ça c'est un autre débat.
C'est un autre débat.
C'est pas parce qu'ils touchent plus d'argent que leur corps est mieux nanti ou qu'ils peuvent supporter davantage de choses. Moi personnellement, je suis assez d'accord avec Kevin De Bruyne, encore que c'est pas politiquement correct, bien évidemment, mais pour des joueurs comme eux qui ont une saison avec, tu l'as dit, tu l'as évoqué, une septantaine de matchs,
c'est ça,
à haut niveau.
À haut niveau.
Faut pas oublier qu'en Angleterre, bon an, mal an, ils jouent 7 ou 8 finales de Champions League sur une saison.
Oui, et même contre les petits clubs, le défi physique est là, l'engagement. Oui, je rajoutais, j'avais démarré avec le Covid pour dire que ça a décalé l'Euro. Donc l'Euro, ils l'ont joué en fin de saison dernière, ce qui fait que la saison actuelle qui s'achève maintenant, elle a été costaude. Ils n'ont pas eu tant de temps que ça après l'Euro pour se reposer et redémarrer la saison. Et là, on vient leur mettre les matchs de Ligue des Nations juste à la sortie de la saison.
Et en Belgique, je ne voudrais rien dire, mais dans 6 jours, les entraînements reprennent.
Hein. Ouais,
c'est le 20 juin.
Le 20 juin pour les premiers. Ouais.
Puisque la Coupe du Monde est en hiver, ben, il faut reprendre les championnats plus tôt pour des raisons de télévision, des raisons
de,
logistiques et économiques. Voilà, j'ai envie de dire vivement l'e-football et ça va drainer autant de passion, mais je me souviens d'un film que j'ai vu il y a des années, un film qui date des années 40 si je ne me trompe. Ouf. C'était On abat même les chevaux.
Ouais.
Tu as dû le voir aussi.
Ouais.
Bah, parfois ça me fait penser à ça, quoi. C'est des gens qui sont au-delà de leurs limites. Alors après, si un jour on en découvre un positif à telle substance, on va dire qu'il se dope, et finalement on aura provoqué ça aussi.
Ouais, c'est vrai que la charge de travail est très très lourde cette saison, et donc la question pouvait se poser de savoir si c'était vraiment nécessaire de mettre ça. Je pense qu'ils ont cette Ligue des Nations. Je pense qu'ils n'ont, comme tu le disais, la Coupe du Monde étant en novembre, ils n'avaient pas d'autres fenêtres.
Je pense que c'est un entraînement grandeur nature.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que certains sélectionneurs c'est la position qu'ont adopté certains sélectionneurs. En l'occurrence, Roberto, c'est le cas de Roberto Martinez.
Bien
je pense.
Sûr.
Roberto Martinez, il s'en est pas caché. Pour lui, ça ressemble plus à une, comme tu le dis, à une préparation grandeur nature.
Quand tu vois faire tourner son effectif comme il le fait tourner, ça ne peut pas être autre chose qu'un entraînement, évidemment. Et puis, il faut un petit peu aussi prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport aux choses. Et quand tu regardes les résultats dans les différents groupes en Ligue A, tous les cadors, tous les ténors, tous ceux qui ont, toutes les équipes qui ont eu, je pense à l'Angleterre, je pense à l'Allemagne, je pense
à la France.
À la France, bien sûr. L'Italie, dans une moindre mesure, ben, ils rament tous, hein. Ils sont tous à la ramasse, avec plus ou moins, alors même quand ils gagnent, c'est vraiment pas avec, je dirais, panache.
Non, c'est vrai.
Donc, apparemment, tout le monde boude un petit peu. Je pense que tout le monde est fatigué et tout le monde boude cela. Et pour cause, je dirais. Voilà.
Ouais, c'est pas illégitime. Pour ce qui est on revient à la Belgique. Donc il y a eu 3 résultats très différents. Comme tu le disais, Roberto Martinez a fait tourner son effectif, ce qui explique aussi ces résultats différents, parce que vous n'avez pas les mêmes automatismes selon les 11 qui sont alignés. Quelle conclusion on peut en tirer, selon toi, enfin de ce que tu as vu en vue de la Coupe du Monde, parce que bon, on va dire que ça sert, il faut quand même qu'il serve à quelque chose ce stage,
J'ai l'impression qu'en fait, mais en même temps, ce n'est que mon idée, hein, mais chacun a la sienne. J'ai l'impression qu'il essaie de tester certains automatismes, et j'y reviendrai, parce que l'association De Bruyne et Hazard contre la Pologne a fait merveille, mais j'ai surtout l'impression qu'il essaye d'évaluer chaque joueur pour essayer d'évaluer à quel niveau il est physiquement, parce que je pense qu'il y en a qui... Il faut pas oublier aussi l'aspect mental dans le foot. Hein. Il n'y a pas que l'aspect physique qui est déjà bien, bien fatigant, mais c'est des joueurs qui subissent une pression permanente. Pour reprendre Kevin De Bruyne, par exemple, la pression d'être champion d'Angleterre, la pression d'aller et d'essayer absolument d'avoir cette Champions League qui leur
glisse
d'année en année. Et toi, supporter du PSG, tu connais bien ça. Voilà, donc ce sont des pressions énormes psychologiques, morales. Voilà, il ne faut pas oublier Kevin De Bruyne aussi. On a tendance à l'oublier parce que maintenant, c'est de nouveau The Machine. Mais il a été quand même solidement blessé, comme Axel Witsel aussi, qui s'est remis pour la Coupe du Monde, mais qui a pris tous les risques nécessaires pour jouer pour son
pays. L'Euro,
donc, quand on dit qu'il manque de motivation, moi, je n'ai pas la sensation. Je pense que c'est juste des êtres humains qui ont besoin,
ils ont besoin de
souffler.
Voilà, ils ont besoin de recharger les accus. Bon, pour cela, on parle de Witsel, on parle de Bruyne, on parle d'Eden Hazard. Il n'y a pas d'enjeu particulier à ce qu'il soit bon ou pas bon lors de cette Ligue des Nations. Comme tu le disais, Martinez fait sans doute une évaluation du reste du groupe aussi. C'est-à-dire qu'il a un groupe de 23 à composer pour la fin octobre, disons.
Et puis il pense à l'avenir aussi.
Il pense à l'avenir
parce
aussi.
C'est probablement la dernière Coupe du Monde de certains de nos cadres. Et donc il faut aussi
penser
après.
On va parler de ça, sans doute la dernière Coupe du Monde de certains de nos cadres, tu le disais. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la défense. Pourquoi ? Parce que, de mon point de vue, c'est ce qui me semble la partie du jeu la plus inquiétante pour le moment.
Mais c'est pas nouveau.
Et c'est pas nouveau.
C'est depuis l'ère Martinez.
Et ça ne va pas aller en s'améliorant parce que, enfin, on a Toby Alderweireld qui a l'âge qu'il a, qui a fait le choix d'aller jouer au Qatar. Ce qui fait qu'on peut penser qu'il n'a pas des adversaires et des matchs d'un très haut niveau et d'une grande compétitivité. Vertonghen, il est aussi, il a 36.
Je t'arrête un instant, on avait dit la même chose de Carrasco et de Witsel quand ils sont partis en Chine.
C'est vrai.
Et puis finalement, bon, évidemment, on va
ils pas
comparer
pas le même
la Chine
non
et le Qatar.
Ouais.
Hein, le championnat de Chine est quand même... Je pense, d'après ce que j'entends, bien plus relevé que celui du Qatar, c'est clair. C'est un football très physique. Hein. Ce sont des gens qui courent comme des lapins. Tu vois les Japonais, les Chinois, c'est pareil. Mais je ne sais pas si le choix d'Alderweireld, si c'est le Qatar vraiment le problème. Je pense qu'il a son âge.
Non, voilà,
Il a ses limites aussi.
Il a ses limites. Vertonghen, on peut penser qu'il dispute des matchs de plus haut niveau encore en étant en Ligue portugaise.
Champion du Portugal.
Non, il a fait une plutôt bonne saison. Mm-hmm. Mais voilà, ce sont les deux pierres angulaires de la défense qui n'est pas sans risque. Et donc, Martinez a testé ou va tester, puisqu'il reste encore un match demain, des alternatives. Alors, il y a un joueur qui semble avoir gagné sa place, si tant est qu'elle ait été... C'est Den Donker, selon moi.
Moi, j'aime moins personnellement.
Oui,
c'est le style anglais des années précédentes.
C'est vrai, c'est pas un...
Mais, par contre, le placement, et je dois dire que pour l'avoir vu jouer deux fois, je dois dire qu'il a vraiment bien tiré son épingle du jeu. Il a fait son match, il a mouillé le maillot. Il mûrit aussi, parce que je le trouvais un petit peu gros coup, comme on dit à Bruxelles, du temps où il évolue encore en Anderlecht. Je le trouve et puis bon, en même temps, il est allé en Angleterre et je pense que quel que soit le joueur de foot qui passe par l'Angleterre revient transformé, que ce soit physiquement, mentalement. Je me souviendrai toujours, c'est Kevin De Bruyne notamment. Quand il a été transféré, c'était à Chelsea, je pense, et il avait expliqué que il vomissait après chaque entraînement, alors qu'en Belgique, c'était la fleur au fusil. Hein. Voilà, c'est un autre sport en fait, en quelque sorte. Et je voudrais revenir sur ce qu'on disait justement, la fatigue et l'effort physique. Je regardais justement toujours l'approche des Coupes du Monde, tu as toujours des rétrospectives, des machins. Et quand tu regardes un match que moi j'ai connu, c'était ma première Coupe du Monde dans mon souvenir, finale Hollande-Allemagne en Allemagne.
Ouais.
Et quand tu regardes Argentine-Hollande aussi, en 78, c'était en Argentine justement. Eh bien, t'as l'impression que c'est pas le même sport. Les défenseurs défendent, les milieux restent au milieu et les avants avancent. Et puis basta, au jour d'aujourd'hui... Enfin, je veux dire, ils courent 5 à 10 fois plus. Bon, tu vas me dire, alors, ça, les mauvaises langues diront, mais ils sont payés en conséquence. Ça, on s'en fout.
Non.
C'est quand même la performance physique.
C'est ça.
C'est invraisemblable. C'est pas, tu as l'impression que c'est du slow motion quand tu regardes du foot des années 70, voire même début des années 80.
Ouais, ouais, tout à fait.
C'est, t'as l'impression que c'est au ralenti. Je pense que même les femmes aujourd'hui, parce que c'est vrai que le foot féminin à la côte, tu les vois jouer. Alors, je parle pas des gardiens de but parce que ça, je pense que là, le bas blesse chez les dames. Ouais. Franchement, c'est presque risible par moment, mais quand tu les vois évoluer techniquement et comment elles courent sur un terrain, j'ai presque l'impression de voir des hommes d'il y a
40 ans. Ouais.
Comme au tennis.
Pareil, ouais, mais c'est vrai que tous les sports...
Le tennis féminin aujourd'hui, c'était des Connors McEnroe d'il y a 30 ans.
Ouais, ouais.
C'est aussi physique, je vais dire. Donc, ça évolue et donc je peux imaginer que ça doit être terriblement traumatisant pour les corps. Quoi.
Ouais.
Regardez Denazar, le rêve de sa vie, c'est de jouer au Real. Il est allé et il n'y a pas de miracle. Il a été blessé, c'est une sale blessure, mais qui est résurgente, qui revient. C'est pas pour rien. Je pense que c'était l'accumulation de tout. Et je suis toujours très, très étonné, moi, et je suis ravi, je croise les doigts pour lui, qu'un Lionel Messi ait pu rester sur ses cannes autant d'années après avoir subi des tacles de malade pendant autant d'années. Sans jamais avoir un demi-pépin, en tout cas.
Je rebondis sur ce que tu disais à propos du rythme. Une des évolutions aussi par rapport à ces années-là, les années 70, le début des années 80, c'est aussi le changement au niveau de l'arbitrage, où on protège les artistes un peu plus. Et je ne sais pas si tu te souviens, et si nos auditeurs qui l'ont vu à l'époque où l'ont vu sur YouTube du tacle qu'un certain Goycochea avait asséné à Maradona pour lui casser la jambe quand il était à Barcelone. Je veux dire, quand on parlait de Messi, ils sont comparables. Heureusement, les joueurs d'aujourd'hui sont plus protégés et les défenseurs se permettent moins de ça.
En Belgique, toi, t'es peut-être trop jeune pour connaître ça, mais je me souviens d'un certain tacle de Slover sur Juan Lozano qui était... la pépite d'Anderlecht à l'époque, c'était vraiment c'était de la grâce à l'état pur. C'était du Maradona de l'époque, si tu veux, d'une certaine manière, qui jouait en Belgique. C'était pareil, c'était pied en avant, tibia explosé.
Merci, au revoir.
Voilà.
Ouais. Ouais. Les conclusions, ça c'est des conclusions sur l'évolution du football.
Du football, bien sûr. Mais ça explique aussi... Alors, je voudrais aussi... Excuse-moi, juste 15 secondes, mais... Quand on parle de la motivation des De Bruyne, des Courtois, etc., je voudrais quand même aussi dire qu'en équipe nationale, ces gars, ils ne sont pas payés comme en club. Donc, pour accepter de jouer pour l'équipe nationale, il faut quand même avoir une motivation et être imprégné de patriotisme et d'avoir envie de représenter son pays. Parce que finalement, financièrement, franchement, ces gars... ils préféraient largement ne pas les gagner et avoir un jour de congé, si ce n'est la motivation.
Ça représente pas grand chose pour eux.
Voilà, au niveau financier.
Au niveau financier, oui.
Donc, moi, je n'aime pas les gens qui disent oui, ils n'en ont rien à cirer. Non, ce n'est pas juste le pognon, parce que sinon, ils ne joueraient pas en équipe nationale, ils refuseraient les invités. Il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas obligés. Ils sont invités à rejoindre les Diables, et donc ils le font. Et quand ils n'y sont pas, c'est les premiers à morfler, à être déçus. Plein,
tout à fait.
Donc, il faut aussi voir ce côté-là des choses.
Tout à fait. Et d'ailleurs, Kevin De Bruyne, aurait pu se faire excuser d'une manière ou d'une autre, mais quand on voit qu'il est là et qu'il se donne à fond, malgré ce qu'il pense de cette Ligue des Nations et du moment où la Ligue des Nations a été programmée, on peut lui tirer un coup de chapeau et dire que lui, il se donne à fond.
Oui, mais j'ai lu dans la DH pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. De Bruyne traîne son ennui sur le terrain. Alors, on n'a pas vu les mêmes matchs.
Ouais.
Moi, je ne l'ai pas vu refuser de jouer. Je ne l'ai pas vu faire l'économie d'efforts. Il s'est donné à fond. Il a fait des passes comme seul.
Lui, c'est les secrets,
on est d'accord. Il était au four et au moulin comme toujours, et je serais très curieux de demander au journaliste qui a osé écrire ça de mon point de vue, ça n'engage que moi, si le gars, il a regardé les stats de voir combien de kilomètres Kevin a couru. Très franchement, et à haute intensité en plus.
Et il a été décisif, et il a donc pour moi, on le sait, il est indispensable à cette équipe. Le deuxième enseignement que je tirerais en vue de cette Coupe du Monde, c'est une chose positive, c'est qu'Eden Hazard est toujours un joueur de football. On a tendance à l'oublier parce que il joue pas au Real Madrid, mais quand il a joué, moi j'ai eu la chance d'aller voir le match contre la Pologne, et c'est pas encore le Eden Hazard d'il y a 3 ans,
mais il met le pied.
Il
met le pied.
Il est là, il tente ses dribbles, il y a une super entente avec Kevin De Bruyne.
Et là, j'ai pas compris justement.
Ça peut donner de l'euphorie.
Je ne sais pas, moi je ne suis pas sélectionneur, je suis encore moins tacticien, mais je n'ai pas capté la volonté de Martinez de ne plus les faire jouer ensemble 3 jours plus tard, alors que la mayonnaise avait pris et que c'était juste extraordinaire à voir parce qu'ils se trouvaient les yeux fermés. Et donc, je n'ai pas compris pourquoi ils ne les avaient pas fait jouer ensemble une deuxième fois.
Du repos pour... Du repos pour Eden Hazard. Bah,
faire monter Eden à un quart d'heure de la fin, le gars, il a touché 2 ballons.
Oui, et puis il avait fait sortir Kevin aussi.
Et c'est pas un moment où les Belges devaient faire le jeu. Malheureusement, ils l'ont pas fait du tout. Et là, on y reviendra, mais ils ont fait preuve d'un peu de suffisance, et voire d'arrogance, à mon sens en tout cas, ce qui leur a coûté un but, évidemment. Et pourtant, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Chaque fois contre les Gallois, ils mènent, et chaque fois. Et ils devraient quand même capter que ces gens et ces Britanniques, et pour la plupart, ils jouent en Angleterre. Ils savent qu'en Angleterre, un match dure 94 minutes, et pendant 94 minutes, les mecs, ils s'arrachent. Et comme si leur vie en dépend. Et certainement les Gallois qui sont toujours présentés comme des oiseaux pour le chat. Et en même temps, les Gallois qui avaient un point, ils jouaient leur survie aussi en Ligue A pour eux. Donc, j'ai pas bien capté ni les changements de Martinez, mais en même temps, si on part du principe que la Ligue des Nations, c'est un entraînement, ça prend du sens.
Voilà, je pense qu'il a voulu faire tourner son effectif au maximum, qu'il n'a pas voulu infliger une trop forte charge de travail à Eden Hazard parce qu'il a... plus le rythme en compétition, puisqu'il joue jamais ou quasiment avec le Real Madrid, donc il s'est peut-être dit que ça faisait.
Et moi, je fais un parallèle, tu sais. Ouais. Pep Guardiola, il sort De Bruyne, il perd la demi-finale. Et puis Martinez, il sort De Bruyne,
boum, égalisation.
Il prend un but du Pays de Galles.
C'est
facile. Hein, après le match, c'est toujours facile de le dire.
Non, mais je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'il est vraiment indispensable à l'équipe.
Guardiola l'avait dit
techniquement,
bien avant la demi-finale de Champions League. Il a dit Manchester City, c'est pas la même chose avec Kevin que sans Kevin.
Et il a eu beau le dire, il l'a pas fait, mais on sait que Pep... pète un peu les plombs de temps en temps lorsqu'il arrive trop près de du bol de sangria.
Il veut trop marquer son métier par des touch of genius, et parfois ça passe et souvent ça casse.
Souvent ça casse quand c'est... Voilà. Le match contre le Pays de Galles, qui est le dernier en date, on a pu y voir donc une défense où là on pense vraiment qu'il a, je pense, et toi aussi je crois, qu'il a testé en vue de la Coupe du Monde, en vue du futur. Il y avait une défense à 3 bien sûr qui avait été alignée: Arthur Théaté, Derrick Boyata pardon, et Dendonker.
Moi personnellement, Boyata je préfère à Deneyer, mais c'est personnel. Malheureusement il est juste moins constant, je trouve, que Deneyer. Alors Deneyer a probablement un niveau, en tout cas de ce qu'on peut voir, inférieur à la qualité de placement, de course, etc. de Boyata, mais Boyata n'est pas aussi constant. C'est un peu en dents de scie sur 3 jours, et il te sort un grand match, puis un match médiocre, et puis un match moyen, et il n'y a pas une régularité. Mais par contre, quand il est bien disposé ou quand il est juste au niveau, ce gars est vraiment, c'est vraiment un monstre, hein. Physiquement, le sens du placement, l'anticipation aussi. Je l'ai vu quand même pas mal anticiper des phases, et propre. Il a fait 2-3 tacles ou 3 interventions dans le rectangle qui, avec un joueur un peu moins expérimenté, se serait terminé par un péno dans tous les cas, proprement. Mais Théaté aussi m'a vraiment agréablement surpris.
Ouais, ça fait partie des jeunes.
Beaucoup de maturité. Et pris ses responsabilités. C'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui rentrent dans le clan diable, et puis ils prennent la balle et puis pouf, ils la passent à un des cadres.
Ils se disent surtout ne pas faire d'erreur.
Voilà, et lui, il a pris sa part, et franchement, chapeau.
Ouais, effectivement, disons que voilà, les tests défensifs ont été, même si finalement il n'y a pas eu de clean sheet face au Pays de Galles, mais...
C'était pas non plus Thibaut dans les buts.
Voilà, c'était pas Thibaut, et c'était même pas Simon.
Par exemple, les gens disaient qu'avec Thibaut, le but de Galois ne serait pas rentré, parce que comme il est plus grand, son pied aurait dévié, parce que ça passe à un millimètre de sa chaussure.
S'il avait chaussé du 47 au lieu du 45,
en même temps, très honnêtement, alors au vu des occasions, on doit gagner ce match 99 fois sur 100. Et n'en déplaise à Martinez qui dit « Ok, le VAR, il y a hors-jeu, machin. » Ok, ça c'est un autre débat. Ouais. Mais sur la niaque, sur le don de soi et sur l'envie,
l'état d'esprit, ouais.
Je pense que les Gallois n'ont pas volé leur point, loin s'en faut.
Tout à fait.
Et il ne faut pas oublier qu'ils avaient marqué les premiers sur un hors-jeu de 2-3 cm probablement et un but qui ne devait rien à personne.
Ouais,
si ce n'est à la passivité sur un deuxième ballon, si ma mémoire est bonne, de la défense.
Ce qui fait qu'au classement, après ces trois premiers matchs joués par la Belgique, les Pays-Bas sont en tête avec 7 points, devançant la Belgique et la Pologne 4 points et le Pays de Galles ferme la marche avec 1 point. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Pologne-Belgique, Pays-Bas, Pays de Galles. On en saura beaucoup plus sur l'issue de ce groupe sans doute demain. C'est-à-dire qu'en gros, si les Pays-Bas l'emportent et que la Belgique ne l'emporte pas, il y aura du souci à se faire pour aller en Final Four. Mais je pense que, de ce qu'on a entendu, il y a des joueurs qui semblent avoir déjà la.
Si les Hollandais gagnent et que nous ne gagnons pas,
c'est
on peut oublier.
C'est ça.
Après, si on fait le même résultat, quoi qu'il arrive, il faut aller battre les Hollandais. Et même si on gagne et qu'eux font match nul, il faut aussi aller gagner là-bas.
Donc, ça fait beaucoup d'hypothèses, mais en tout cas,
il faudra
aller gagner là-bas.
Et si les joueurs sont fatigués, ils doivent espérer que les Hollandais gagnent.
Ouais, c'est ça.
Comme ça. Et qu'eux fassent un match nul, comme ça, il n'y a même plus de questions à se poser.
Dans les autres groupes de cette Ligue A, on va les passer en revue rapidement. Le groupe 1, c'est celui de la France. La France qui ferme la marche de son groupe après 3 matchs joués, 2 nuls, une défaite. Tu parlais de grandes équipes qui n'y arrivent pas ou qui sont moins concernées, ou je ne sais pas. C'est vraiment le cas de la France. L'équipe de France joue ce soir en Croatie. Donc là aussi, on en saura plus sur le
Et le classement, c'est lequel en ce moment ?
Alors le classement, Danemark premier 6 points, deuxième Autriche 4, troisième Croatie 4 et quatrième France 2 points. Donc les Français, en cas de défaite ce soir, auraient pris un sacré retard. Ouais, ils seraient même.
Donc les Croates vont être surmotivés parce qu'ils veulent sauver leur place en Ligue 1.
Et puis ils peuvent jouer encore la qualification pour le
Mbappé
Final Four.
Mbappé,
Benzema et Nkunku sont alignés en attaque et Griezmann est sur le banc.
Quand tu entends ça, tu te demandes comment ils peuvent pas encore perdre un point. Ouais. C'est invraisemblable.
Benzema, Mbappé, ouais. Bon, mais ça reste des humains aussi.
C'est vrai. Mbappé, j'ai presque envie de dire que c'est Mbappé contre la Croatie, Mbappé contre le Danemark.
Bon,
il est rentré, c'est lui qui a donné le point.
Sauf que voilà, il va jouer avec. Il joue maintenant avec le futur Ballon d'Or, peut-être. Il faut quand même pas minimiser l'importance de Benzema. Benzema qui est.
Il le mériterait.
Ouais. Et je ne sais pas si tu as vu, donc il y avait Autriche-France. Tous les Français se sont fait siffler à la présentation des joueurs, sauf Benzema. Je pense qu'il a impressionné tout le monde cette année. Dans le groupe,
C'est le seul qui a. Excuse-moi de le dire comme je le pense, c'est le seul qui a pas la grosse tête.
C'est possible.
Il fait son match. Il est toujours humble, sûr en dehors du terrain. Tu n'entends à part l'histoire avec
Valbuena.
J'entends jamais parler de lui dans les tabloïdes. Il a une vie à la Zidane, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Zidane qu'on cite au PSG, on y reviendra.
Ouais, ça. On verra ça.
Mais souviens-toi, on avait déjà parlé de ça il y a 3 mois.
Ouais. Enfin. On verra bien. dans le groupe 2, celui de l'Espagne. L'Espagne domine pour l'instant, mais d'une courte tête face au Portugal. Devant le Portugal, 8 points. Le Portugal, 7 points. La République tchèque, 4. Et la Suisse, 3. Ils ont fini leur. Fenêtre internationale, je dirais, donc après 4 matchs joués. On s'achemine vers un duel ibérique entre les deux pays de
l'Espagne
et le Portugal. Voilà.
Mais franchement, moi je trouve. Alors l'Espagne, c'est une très belle équipe, mais le Portugal m'impressionne. Je trouve qu'ils ont des joueurs juste exceptionnels.
Ouais.
Notamment quand on a joué contre eux au récent Euro. Mais vraiment, c'est une très très belle équipe.
Oui, c'est vrai qu'ils ont des joueurs en plus pas interchangeables, mais ils ont devant, vous avez Ronaldo qui reste Ronaldo, et puis les Diogo Jota, Bernardo Silva, Bruno Fernandes.
Je reviens à ma théorie, à moi je pense toujours que Ronaldo, il inhibe ses partenaires plutôt que les désinhiber ou les laisser s'exprimer. J'ai l'impression que comme il est sur le retour d'une certaine manière, même si c'est un très beau retour, hein, on est d'accord. Mais je pense que maintenant, eh bien, les jeunes vont pouvoir prendre leurs responsabilités et je suis convaincu que ça va être une très belle équipe du Portugal si tout va bien.
À surveiller.
Au mondial, oui.
Dans le groupe 3, c'est celui des malheureux Italiens qui ne sont pas qualifiés, eux, pour la Coupe du Monde. Les Italiens sont en tête du groupe, mais c'est très serré. 5 points devant la surprenante équipe de Hongrie, 4 points, 3 points et 3e place pour l'Allemagne pour le moment. Et l'Angleterre ferme la marche, 4e avec 2 points seulement. Là, on a eu des matchs un peu ennuyeux. Moi, j'ai regardé. Italie-Angleterre, c'était poussif, c'était pas une soirée exceptionnelle.
Moi, j'ai pas vu,
et...
alors, à part le score contre la Pologne des Belges, j'ai pas encore vu un beau match. Hein.
Non, mais c'est vrai que c'est...
C'était vraiment, je sais pas, c'est peut-être la période qui veut ça. Tu parlais de sport moteur tout à l'heure. C'était au bout de l'ennui les 24 heures du Mans, ouais, au bout de l'ennui le Grand Prix d'Azerbaïdjan et au bout de l'ennui la Ligue des Nations pour les matchs que j'ai pu voir. Même si, en tant que supporter, tu vibres, évidemment, mais franchement... Il n'y a pas de quoi fouetter un chat.
Il n'y a pas de... Voilà.
N'en déplaise à... Comment il s'appelle votre joueur qui s'amuse avec son
chat ? Kurzuma. Je ne sais pas si on le reverra en équipe de France. Oui.
Non, ouais.
On disait, avec raison, bah oui, puisqu'on l'a dit, en reprenant les propos de Kevin De Bruyne, que la Ligue des Nations n'était pas hyper importante. C'est vrai pour les très grandes équipes, mais ça s'avère moins vrai pour les plus petites équipes. Et on va passer à une équipe qui nous intéresse un peu plus que les autres ici, c'est l'équipe d'Israël. Parce que l'équipe d'Israël, pour ceux qui n'auraient pas suivi un petit peu son évolution, elle se trouve dans le groupe B. Elle a été tirée au sort dans un groupe qui comprend l'Albanie, l'Islande et à l'origine la Russie. Mais comme vous le savez, la Russie s'est fait disqualifier en raison de l'agression de l'Ukraine, ce qui fait qu'Israël se retrouve dans ce groupe à 3, sans risque de descendre, puisque ce sont les Russes, s'ils sont inscrits lors de la prochaine Ligue des Nations, qui seront en Ligue C. Donc ces trois équipes ont juste comme objectif
de monter,
et avec toutes les conséquences positives que ça aurait sur le football du pays, c'est-à-dire, premièrement, un gain d'expérience énorme, on imagine, pour une de ces équipes, puisque ça veut dire avoir 6 matchs officiels face à 3 grosses nations. On imagine qu'aussi la dotation est plus importante quand vous êtes en Liga. En tout cas,
bien
si vous
sûr.
Vous qualifiez pour la phase finale, vous gagnez quelques millions d'euros en plus. L'exposition des joueurs aussi qui va être importante, puisqu'ils vont pouvoir être vus encore plus par des potentiels recruteurs. Et puis les droits à télé et autres, où j'imagine qu'on vend un Israël-Italie plus cher qu'un Israël-Albanie. Donc voilà, donc l'enjeu est assez fort pour les Israéliens qui butent à chaque fois sur une dernière marche. Récemment, c'est toujours en barrage, souvent face à l'Écosse, qui se font éliminer.
Et c'est étonnant, je t'avoue, parce que je me fais la réflexion depuis des années. Quand tu vois le contingent de joueurs israéliens qui évoluent au plus haut niveau dans des grands championnats, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Belgique, en France, et qui n'arrivent pas à faire ce petit step further, comme on dit.
Ouais.
C'est très étonnant parce que ces joueurs-là devraient apporter leur expérience justement pour pouvoir vaincre le signe indien d'une certaine manière. Donc je suis toujours très étonné de voir Israël parce qu'ils pratiquent un beau football.
Oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'il manque à chaque fois... soit un peu de talent par rapport au talent, parce qu'il y en a aussi de leurs adversaires, soit il manque effectivement un peu d'expérience ou de vie.
Ils avaient même un entraîneur, celui qui a entraîné Chelsea, qui a été...
Abraham Grant,
voilà, donc ils avaient vraiment toutes les cartes en main, j'ai envie de dire, pour pouvoir progresser de manière significative. Et en l'occurrence, ils restent bloqués là.
Eh bien, voilà, peut-être
le déclic,
l'occasion
espérons
pour eux de passer.
Allez jouer en Islande, bonjour. Hein.
Alors justement, ils ont réalisé donc, comme vous l'aurez compris, comme il y a que 3 équipes dans le groupe, 3 équipes actives, chaque équipe disputera uniquement 4 matchs. Pour l'instant, les Israéliens en ont joué 2. Ils ont ouvert leur compteur face à l'Islande à domicile en partageant 2-2. Mais en revanche, ils ont réussi à aller gagner en Albanie 1-2 vendredi. Et ce soir, ils affrontent, à partir de dans 7 minutes, ils affrontent l'Islande en Islande. Tu le disais, ça ne va pas être facile.
D'abord,
après,
c'est une position de style incroyable.
Voilà.
Et ensuite, eux, c'est des techniciens, globalement, et les autres, c'est des bûcherons, quoi.
Ouais,
et,
même
et
si on.
Ça sent, ouais, ouais, ils ont... que ce soit péjoratif, évidemment. Mais...
Alors, les Israéliens auront sûrement une motivation supplémentaire, dans le sens où ils savent que, en cas de victoire ce soir, ils écarteraient définitivement l'Islande de la course à la Ligue A, et il leur resterait un seul match à jouer à domicile face à l'Albanie. Donc ils auraient vraiment toutes les cartes en main. Donc on va suivre
à partir pour le moment de... le classement c'est...
Et donc le classement, Israël premier avec 4 points, suivi de l'Islande avec 2 points et l'Albanie un seul point.
Donc j'ai envie de dire... Alors, pourvu qu'ils ne partent pas dans cet esprit-là, mais la victoire, si possible, mais le match nul n'est pas non plus une catastrophe.
Le match nul n'est pas non plus une catastrophe, c'est ça.
Voilà, ils peuvent se permettre de ne pas gagner.
De ne pas gagner ce soir, mais c'est vrai que voilà, ça entérinerait les choses avant les vacances. Ce serait une bonne nouvelle. Ils ont pu compter sur deux joueurs qui sont les pépites offensives actuelles. Il y a Manor Salomon. Qui est cet ailier milieu offensif très courtisé actuellement parce qu'il jouait au Shakhtar Donetsk en Ukraine, et où il a fait de bons résultats. Et puis bien évidemment, en raison de la situation là-bas, son contrat a été rompu et il va pouvoir s'engager dans un autre club. On parle de lui en Première Ligue, on a même des clubs du style Arsenal, Everton était sur lui, ce sera peut-être Fulham, enfin on ne sait pas encore. Et il y a un autre Israélien qui évolue en Grande-Bretagne, plus particulièrement en Écosse, c'est Liel Abada, qui est un tout jeune attaquant, 20 ans, qui a marqué une quinzaine de buts en 50 matchs, donc il n'est pas... C'est pas... Maladé... Comment il s'appelle Maladé, Jonas Maladé, celui qui joue à Genk, où il y a un Israélien qui a été recruté il y a un an à peu près, mais qui,
ouais,
voilà.
Je me souviens pas du
tout. Tu vois, il joue quasiment jamais. Non, lui, Liel Abada, il a vraiment il a laissé un peu son empreinte, et ça peut être un très grand futur grand joueur.
Espérons-le.
Voilà. Donc, ils ont les cartes en main. On les suivra. On vous dira ça. Peut-être demain matin, dans la matinale, on vous donnera le résultat.
Pourquoi pas?
Du match israélien. Voilà pour la Ligue des Nations. Barrage de Coupe du Monde maintenant. Il n'y a pas grand chose à dire, même si le match, les matchs, donc il y a un match qui a débuté, c'était Australie-Pérou, puisque c'est donc le barrage intercontinental, et on en est pour l'instant à la 37e minute, il y a 0-0.
Absolument.
Vous confirmez, monsieur Didier ?
On a la même application, je pense.
Pour information, le vainqueur de ce match tombera dans le groupe de la France, du Danemark, bien sûr, et de la Tunisie. Ce sera un groupe assez varié pour quel que soit le vainqueur de ce groupe, de ce match. Et le deuxième barrage aura lieu, lui, demain. Je vous rappelle que tout ça se joue au Qatar. Donc, c'est, pour nous, Européens, c'est plus pratique au niveau du... Et puis, pour tout le monde, d'ailleurs, c'est plus pratique au niveau des distances à parcourir. Costa Rica, Nouvelle-Zélande, parce que ça, Costa Rica, Nouvelle-Zélande, j'imagine qu'il doit y avoir une bonne trotte.
Ouais, oui. Ça, c'est une évidence.
Et donc ça se jouera demain, et le vainqueur sera placé dans le groupe de l'Espagne, de l'Allemagne et du Japon. Écoutez, on va regarder ça avec attention, puisque voilà, c'est les 31e et 32e équipes qui seront qualifiées pour cette Coupe du Monde.
Moi, je suis pour la Nouvelle-Zélande.
Toi, on le sait, voilà, c'est fait.
Je veux les voir jouer au foot.
Je te propose qu'on passe maintenant, qu'on revienne en Belgique et qu'on parle un petit peu de la Jupiler Pro League. Comme tu le disais, ça va reprendre d'ici une dizaine de jours maximum, même une semaine, la reprise pour certains clubs,
juin,
le 20 juin. Il faut savoir qu'il y a certains clubs qui, parce que tu disais, ils reprennent tôt, mais c'est vrai qu'en raison du format du championnat belge, il y a des clubs qui ont arrêté de jouer déjà il y a 2 mois, quasiment.
C'est vrai.
Mais enfin, le ventre mou. Hein,
mais les meilleurs...
Les meilleurs, voilà. Bon, ils reprendront peut-être un peu plus tard, mais effectivement...
Ah, le Standard aura une fraîcheur fantastique cette année.
Voilà, le Standard aura pas de...
T'as vu un petit peu, c'est un métier. C'est, hein,
ouais. Et donc, on va parler de jeux de chaises musicales chez les entraîneurs. On l'avait évoqué il y a quelques semaines en disant que c'était la l'intersaison la plus prolifique ou en termes de changement d'entraîneur, puisqu'il y a eu plus d'une dizaine d'entraîneurs qui ont sauté, enfin qui ont changé, et notamment ça va être le cas dans quasiment tous les top clubs.
Pas pour les mêmes raisons nécessairement.
Pas pour les mêmes raisons, tout à fait. Je te propose qu'on commence par le Standard, même s'il n'a pas fait une saison formidable, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Standard a jeté son dévolu sur Rony Delia. Vous le connaissez peut-être pas, sans doute pas. Je vous avoue que j'avais pas une grande connaissance de ce type avant de m'y intéresser récemment.
Mais le 7-7 Partners, oui.
Voilà, eux, ils le savaient. C'est un Norvégien.
Les acquéreurs du Standard, il faut le savoir aussi. Hein, donc, ils ont changé de propriétaire.
Et pour la petite info, du Red Star aussi en France, en troisième division. Je crois que leur stratégie est de se...
Ah, ils aiment les petites équipes.
Non, mais c'est ça. ils aiment les clubs à forte histoire, mais qui sont en difficulté.
D'accord.
Donc, ils sont bien tombés avec le Standard et bien tombés avec le Red Star.
Anderlecht doit se méfier, ils vont être achetés par les 3-7 partenaires aussi.
Rony Delia, c'est un Norvégien qui a pas mal bourlingué après avoir fait fait les dents au pays où il a été plein de succès. Il est allé entraîner le Celtic Glasgow, qu'il a mené au titre de champion. Et puis, il est depuis quelques saisons aux États-Unis, à New York plus particulièrement, où il a aussi bien réussi, puisque je crois qu'il a été champion.
Pour être honnête, alors même si il faut tout le respect qu'on leur doit, mais championnat écossais, ça se joue chaque année entre deux équipes, hein, c'est clair.
C'est vrai, et comme il était au Celtic, il avait une chance sur deux de gagner le titre.
Il y a les Rangers et les Celtics, et puis basta. Et à New York, moi je ne suis pas américain, mais j'imagine qu'il n'y a pas non plus 67 prétendants au titre.
C'est vrai, mais bon, il aura eu au moins le mérite de le faire.
Hein, tu sais quoi ? On verra bien, on jugera sur pièce. Mais par contre, je voudrais revenir un instant, le Standard qui pensait avoir fait la bonne affaire en débauchant en plein milieu de la saison, moi j'étais résolument contre, mais enfin ils avaient débauché Luca Elsner de Courtrai, je pense. Elsner malheureusement, mauvaise pioche, hein, parce qu'il était à l'Union, puis il est parti, il a succombé aux sirènes de première division, et puis, mauvaise pioche, qu'il aura fait 7 mois, 8 mois, j'espère qu'il va bien rebondir, parce que c'est un bon entraîneur.
C'est un bon entraîneur, oui, on en avait parlé, on l'avait évoqué quand il y a eu ces changements d'entraîneur lors du Mercato, sur le fait que finalement, c'était rarement de bonnes idées, sauf si vous avez un sauveteur qui vient faire, enfin quand je dis un sauveteur, un entraîneur rompu à ce genre d'exercice qui vient pour empêcher une équipe de redescendre sur quelques matchs.
La seule équipe, je ne voudrais pas tirer la couverture à moi, mais la seule équipe qui contredit ce que tu dis, c'est Bruges. Clément est parti au mercato d'hiver, Schröder
est arrivé,
il a tâtonné pendant un mois et demi, et puis ils sont champions.
Oui, c'est vrai que...
C'est vrai
que souvent, ça, on observe en tout cas une amélioration des résultats dans l'immédiat, à court terme, et ensuite on retourne sur les mêmes bases. Donc Luca Elsner aura fait qu'une demi-saison au Standard. Il est remplacé donc par cet entraîneur norvégien.
Donc, à qui on souhaite bonne chance,
Et bon courage.
Et bon courage surtout, pas évident.
C'est vrai, ils vont reprendre assez rapidement, eux, comme on le disait.
Il va devoir travailler le mental surtout.
Ouais.
Ils arriveront déjà avec, après une saison comme ils ont passé, je pense que ça va laisser des traces dans les âmes des joueurs.
Il faut renouveler une partie du...
Puis ils vont devoir conquérir leur public, parce que là, c'est pas gagné.
Mais en tout cas, il y a une chose que je trouve intéressante. Alors, c'est vrai qu'il y a les investisseurs américains qui débarquent en Europe depuis un certain temps, mais il y a de plus en plus, que ce soit de joueurs ou d'entraîneurs maintenant, qui sont passés par la MLS, qui viennent. Il y avait Jesse March, l'entraîneur qui était à Salzbourg, puis à Leipzig.
Filière Red Bull. Quoi.
Voilà, la filière Red Bull, puisqu'il était lui-même au New York Red Bulls avant. Maintenant, Rony Delia, on sait qu'il y a pas mal de joueurs aussi qui commencent à peupler les divers championnats européens. C'est une bonne chose. Je trouve ça
en même temps, je dirais l'esprit norvégien est excellent. Hein. Tous les esprits scandinaves, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur, souviens-toi de Morten Olsen. Enfin, je veux dire, on pourrait donner maintenant, son nom m'échappe, Eriksen.
Ouais.
C'est quand même un esprit de foot, c'est vraiment de la combativité. J'espère qu'il va pouvoir leur apporter la grinta froide, pas de la pas manière la... dont faisait... comment il s'appelait comment il s'appelait tu vois qui je veux dire, l'ancien entraîneur du Standard, là. Ça, c'était un petit peu trop. Mais peut-être qu'avec Ronnie Deyla, ce sera bien. Je l'espère, en tout cas. Comme ça, le championnat... C'est vrai que le Standard nous a manqué cette année dans le top 6. Je ne vais pas te parler même du top 4, mais dans le top 6, ça fait tâche.
Ça fait tâche, exactement.
Parlons de l'Union.
Exactement.
Vice-champion.
Vice-champion, l'Union, qui perd son entraîneur, puisqu'on le sait, Felice Mazzu, a décidé de rejoindre Anderlecht.
Ça se passe pas trop bien, hein, parce que au départ, on a cru que c'était un gentleman agreement, que ça arrangeait bien tout le monde. J'ai vu, alors que l'Union, tu n'entendais pas trop parler en communication pendant la saison, ils n'ont pas trop apprécié, ils ont tiré à boulet rouge sur les méthodes de Mazzu pour... alors, il n'a peut-être pas osé aller dire cash, on n'en saura jamais rien. De toute façon, ça, c'est dans les coulisses. Mais ça ne se passe pas tout à fait à l'amiable, donc il faudra voir...
Oui, on espère que la belle histoire ne sera pas
Et j'espère pour Felice Mazzu que ce ne sera pas bis repetita comme à Genk. À part que là, il vient avec son propre staff, voilà. Ce qui fait une vache de différence. Mais moi, je dis toujours, des entraîneurs comme ça, c'est comme Heinz van Azebroek, il faut pouvoir gérer des égos. Et les égos, à mon avis, du côté du vestiaire d'Anderlecht et ceux de l'Union, sont
c'est
pas
C'est un peu différent,
ouais.
Oui, je pense aussi. On lui souhaite, lui aussi, beaucoup une bonne chance et du courage.
En plus, une chouette personne.
Ouais. Et sais-tu que il a une particularité, Felice Mazzu, ça va être, il va, grâce à lui, il y a une première qui va exister à Anderlecht.
Alors, vas-y, je t'écoute.
Eh bien, c'est le premier entraîneur wallon à entraîner Anderlecht. Il n'y a jamais eu d'entraîneur entraîneur de Wallonie qui a entraîné Anderlecht.
Ben, rien qu'à ce titre-là,
ben, voilà.
Bienvenue.
Bienvenue à lui. on peut parler aussi de Bruges. Alors, Alfred Schroeder, après...
Il y a deux cas comme ça, parce que Mazzu est remplacé par Karel Gerhard, voilà. Qui était son aide, c'est-à-dire le T2, comme on dit dans le jargon. Et puis Schroeder, il faut savoir aussi, c'est pour ça que je te disais, c'est pas pour les mêmes raisons. Elsner, il a été limogé, pour ne prendre que son exemple, tandis que Mazzu et Schroeder ont été débauchés. C'est très différent. Ça veut dire que tous les deux clubs, que ce soit l'Union, c'est marrant, le champion et le vice-champion changent d'entraîneur, et tous les deux prennent la même option, c'est-à-dire de faire confiance au T2. Ça veut dire aussi que le club est une famille d'une certaine manière, parce que c'est... Je trouve que c'est bien de montrer au T2 que finalement il a été là et de lui donner sa chance. Je trouve ça une belle chose. Comme je pense, je ne sais plus quel club l'avait fait avec Bellocine. Charleroi l'avait fait avec Bellocine aussi. Je trouve ça bien. Plutôt que d'aller chercher un nom ronflant, on parle de 40 millions pour De Ketelaar. Si ça se fait, à Bruges, ils seront à l'abri pour quelques saisons. Mercato. Mais plutôt que d'aller chercher un nom ronflant qu'ils vont payer et ils peuvent se le permettre, ils préfèrent donner la chance à un jeune entraîneur, parce que Karl Hufkens n'est pas jeune, mais c'est un jeune entraîneur. Il a travaillé quand même avec Hufkens, avec Schroeder. Il a quand même été à bonne école. Ouais. On pourra voir Mazzu. Karel Gerhard, je ne peux pas répondre, mais c'est aussi un enfant brugeois. Hein.
Ouais. moi, je trouve
Genkwa aussi.
Genkwa aussi. C'est une bonne chose, en particulier, je pense, pour l'Union, dans la mesure où ils ont une saison qui a été tellement exceptionnelle.
Ils pourront difficilement faire mieux.
Voilà. Et puis, vous perdez votre guide. Si vous allez chercher un entraîneur avec une trop grande personnalité, ce n'est pas le mot, parce que je ne sais pas exactement, je ne connais pas la personnalité du nouvel entraîneur, mais avec
une forte personnalité, Karel Gerhard.
Voilà, mais si vous faites venir un entraîneur qui a des convictions footballistiques déjà bien arrêtées, bien ancrées, vous risquez d'avoir des difficultés à faire marcher une machine comme l'Union qui, on peut le dire un peu, ils ont atteint ce niveau par le travail, bien sûr, par le talent, mais c'est un peu aussi un miracle.
Il est arrivé à insuffler ce fighting spirit.
Et donc, au moins,
on peut
espérer que la transition se passe bien avec.
Après, on verra, parce que Gerhard, c'est un nouvel entraîneur, et puis je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments de l'équipe qui vont changer. Notamment, et je l'espère pour Bruges,
Nielsen
qui, on va pouvoir le transférer à Bruges. Parce que ça, c'est vraiment... Ça, c'est le joueur pour Bruges.
Ouais, tout à fait.
C'est typiquement dans l'esprit. C'est
un Vormer, un Ritz.
Exactement. Je pense que c'est un mélange des deux.
3.0.
Tout à fait, avec tout approuvé, donc c'est-à-dire une fin de, ouais, de foot. Moi, j'espère que ça va se concrétiser. Je sais déjà, il y avait, je pense que Kenk était sur le coup aussi, mais ils ont déjà abandonné. Ouais, ouais. Puis alors, si le transfert de Kettelaar se fait, je pense que Bruges pourra donner des arguments pour faire venir Nielsen qu'aucun autre club en Belgique ne pourra, ouais, faire valoir.
Bah, déjà, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions, la phase de groupe. C'est déjà en un plus. Argument
ouais, non,
massu, et pas Mazou.
Mais je pense qu'il y a aussi le capitaine de comment il sera,
Thomas
qui est aussi sur le départ, si j'ai bien, ouais, compris. Il y en a d'autres. Hein. Undav, il est déjà parti, ça, on le sait. Donc il restera plus que le petit
Van Zer.
Alors il faut l'alimenter.
Enfin, il restera plus. Il reste la Poussin, il reste Amani, il reste Newcope,
mais,
mais c'est pas.
Et aussi sont très courtisés. Donc il faudra voir un petit peu. Et le mercato ne vient que de
Il a même pas, même pas commencé.
Pas partout. Donc voilà, il faudra voir.
Il faudra voir
pour l'Union que. Ils vont pouvoir, en tout cas, sinon garder les gens, en tout cas acquérir des nouveaux qui pourront s'inscrire dans la digne lignée de leur prédécesseur.
Et ben c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et avec cette belle parole, on referme notre page football pour aborder et consacrer le temps qui nous reste au sport mécanique. Et on va commencer par la Formule 1. Parce que les 24 heures du Mans, on va le dire, c'est une formidable blablabla, c'est une épreuve extraordinaire, c'est super.
Franchement, cette année, le suis depuis quand même quelques années, ça a été d'un soporifique. Je pense, alors j'ai regardé en plus sur Ovio, à la RTB, je sais pas, ils ont été chercher même des gens soporifiques aux commentaires.
C'est vrai que les 24 heures du Mans, tu m'arrêteras si je me trompe, mais dans mon esprit... ça fait partie des, pas du grand chelem, mais de la royauté des courses des courses de voitures, comme Indianapolis, les 500 miles d'Indianapolis, ou le Grand Prix de Monaco, ou le rallye de Monte Carlo, ouais,
chaque année, il y a une rivalité entre des constructeurs. En LMP1 hybride à l'époque, tu avais Porsche, tu avais Audi, tu avais Toyota qui est arrivé. Donc tu avais vraiment un combat réel. L'année passée, ça a été aussi, si ma mémoire est bonne, en LMP1, un doublé Toyota. Mais il y avait au moins du suspense parce que je pense que les 6 dernières heures ont été épouvantables. Ils sont traînés.
Eh bien, on regardera l'année prochaine si c'est plus sympa.
Mais par contre, l'ambiance est...
Autre style, autre ambiance aussi en Formule 1, donc à Bakou, en Azerbaïdjan, avec ce...
C'est marrant, un des sports les plus chers du monde qui se joue à Bakou.
À Bakou, c'est ça. le circuit est assez...
Intéressant,
impressionnant, ouais. Parce qu'il y a des... Il y a des passages où...
J'écoutais Stoffel van Doorn hier, et au commentaire de la RTBF, qui disait que Bakou, c'est un petit peu le mélange de Monaco et de Monza. Et c'est vraiment ça. Tu as des lignes droites où les voitures peuvent exprimer toute la puissance des moteurs. Et puis, tu passes à des millimètres du mur, des rails.
Et moi, j'ai vu, il y a une chose, je ne sais pas si tu as vu ça, il y a une chose qui m'a fortement surpris. C'est dans une des lignes droites... Il y a des arbres sur les côtés, c'est-à-dire qu'il y a des branches qui sont potentiellement au-dessus de la piste. Alors j'imagine pas, mais imaginons qu'il y ait une branche qui tombe. Enfin, ça me paraissait un peu incongru.
Veille à ça, c'est que c'est juste pas possible.
C'est vrai que du coup, il y a un ressenti particulier.
La ville est magnifique.
Ouais.
Hein.
Tu vois les passes devant le château, devant. La F1 fait la bonne pub pour l'Azerbaïdjan. Je pense que c'était l'effet recherché et c'est bien fait. Au niveau de la course et de la piste, Sainz a tiré tout droit à cause de ses freins. Il a dû sortir au 9e tour.
Leclerc a explosé son moteur. Enfin, il a explosé. Le moteur de Leclerc a explosé plutôt.
Voilà. Comme j'ai lu un truc qui m'a fait rire, il disait le moteur de Leclerc, il ressemblait à une chicha qui se font beaucoup de fumée.
Parce que ça. Toutes les voitures dont les moteurs explosent, c'est exactement la même chose.
Et là, effectivement, il a senti perte de puissance. Il a jeté un œil dans les rétros. Il a vu qu'il y avait de la fumée.
Terminus.
Donc
le Grand Prix
commence
était fini
à faire
après 12 tours, quoi, 13 tours.
Et puis ça commence à faire. Eux qui avaient si bien démarré la saison,
c'était pas spécialement bien parti non plus. Il a fait la pole, c'est sa 4e d'affilée. Il se fait griller au départ par Perez qui entre parenthèses, fait une saison magnifique jusqu'à présent. Et Verstappen reste calé derrière, mais. Alors, Verstappen a beau dire, c'est l'arrogance de son père, je pense. En disant, oui, j'ai attendu mon heure, machin. Je pense que si Leclerc garde son moteur jusqu'au bout, alors peut-être qu'il y aura un doublé Red Bull, mais il y aura match. pour reprendre l'expression footballistique. Là, il n'y a pas eu match. C'était un doublé. C'était de savoir qui serait troisième, quatrième et cinquième, je veux dire.
Il y a certains observateurs qui disent qu'il y a un tournant qui a été. On a pris. Enfin, un tournant qui s'est opéré pour le championnat du monde déjà. On est au 8e Grand Prix seulement. Effectivement.
Il y a 24 points d'avance. C'est-à-dire. En même temps, ce qui est arrivé à Charles peut arriver à Verstappen, à Max le week-end prochain. Je veux dire, c'est une victoire, hein, c'est 25 points. Il suffit qu'il y ait un abandon et les Red Bull ne sont pas les voitures les plus fiables, on le sait. Et que Charles finisse premier et toutes les cartes sont rebattues.
Et la saison est encore longue, puisque même si on a annulé le Grand Prix 14, de Russie, il en reste 14. Il n'y aura pas 23, il en aura 22. Ça fait, on a le temps. Moi, il y a un truc qui va être sans doute intéressant, parce que tu parlais de casse moteur et autres. Admettons que pour une raison ou pour une autre, Max finisse pas un des grands prix, mais que son coéquipier termine, ils seront, ils seront vraiment
Comme à l'époque,
Prost-Senna,
ou même chez Red Bull, ils ont déjà connu ça, avec Vettel et je crois que c'était avec Ricciardo, c'est possible.
Ouais. Puis c'est vrai que ça fait, c'est toujours sympa les batailles entre coééquipiers, on pense aussi à Hamilton et Rosberg.
Hamilton, ça, on sait déjà qu'il ne sera pas champion du monde
Malheureusement. D'ailleurs, il fera l'impasse visiblement sur le Grand Prix du Canada, ce si sympathique Grand Prix du Canada, parce qu'il a des problèmes de dos assez impressionnants.
Il n'arrivait pas à sortir.
Exactement. Et oui, si vous entendez cette musique, c'est que c'est la fin. On est désolé, on aimerait que ça dure plus longtemps, mais c'est comme ça, une heure. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On a parlé football, on a parlé Formule 1. Je vous avais dit que je vous parlerais de deux exploits. Je vais le faire très rapidement. En golf, Lindgren, une Suédoise, a gagné un tournoi mixte. C'est la première fois qu'une femme gagne un tournoi masculin aussi. Pour précision, souvent, lorsqu'en golf, les femmes démarrent d'un autre départ que les hommes, un peu moins loin. Là, ce n'est pas le cas. Ils ont tous démarré au même endroit et c'est elle qui a gagné. Deuxième exploit, c'est en tennis. Il y a un joueur, un néerlandais, classé 205e mondial, qui n'avait jamais joué un tournoi ATP. Eh ben, il a gagné à Bois-le-Duc, Sertogenbosch, aux Pays-Bas.
Sertogenbosch. Mais j'aime beaucoup ton accent pour un Français d'origine, c'est chapeau bas, je dis.
Je te remercie. Et il a quand même réussi à battre le numéro 2 mondial, Dani Medvedev, en finale, pour s'adjuger donc pour son premier tournoi, le premier titre de sa carrière. Medvedev, pour que l'information soit complète, retrouve la place de numéro 1 mondial qu'il avait brièvement occupée en mars. Et donc, c'est le nouveau numéro 1 mondial. On a tout dit. Presque. Bonne soirée, Didier. Voilà. À demain matin.
À demain matin, 6h45 pour la matinale, bien sûr. Et quant à nous, Sam, on joue la prolongation la semaine prochaine pour probablement...
La dernière.
La dernière de la saison.
Voilà, on fera un petit bilan de tout ce qui s'est passé en Jupiler Pro League. On fera notre rétrospective, notre équipe type. Ça va être sympa. Allez, bonne soirée, bonne semaine.
Salut Sam, salut tout le monde. À demain matin.
À demain matin.